Bonsoir, les chrétiens fêtent Noël partout dans le monde. La basilique de Bethléem a résonné d'un discours très politique, celui du patriarche latin de Jérusalem. Il appelle à rouvrir la vieille route des bergers et des mages, la route de Jérusalem barrée par le mur israélien. Nous appellerons Moussin Enaimi en Cisjordanie. Et puis on va s'intéresser au sort de ces chrétiens de Palestine, au sort de toute la région également, cette région qu'on appelle la Terre Sainte, avec un accord qui se profile peut-être entre le Hamas et le Fatah. Avec nous, Antoine Sfer, le directeur des cahiers de l'Orient, et Benjamin Barthes, journaliste au Monde. Il connaît la Palestine par cœur, il sort un livre, Ramallah Dream. Ils sont tous deux en direct avec nous. On va se demander dans ce forum si la Russie peut se passer de Vladimir Poutine. Les manifestants hier à Moscou en appelaient à son départ, pur et simple, et pourtant aucune figure ne se détache au sein de l'opposition russe. Les Russes qui ont déjà donné en matière de révolution, alors le changement en Russie doit-il passer par une évolution du régime de Poutine plutôt que son retrait du pouvoir? On va en débattre avec deux invités, des Russes, ce sera dans une trentaine de minutes. En Suisse, les préoccupations sont plus terre à terre, c'est le sort des passages piétons qui enflamment le débat politique. Ils sont trop meurtriers en Suisse. Le directeur de l'Office fédéral des routes ose même ce matin dans la presse affirmer qu'il y en a peut-être trop de ces passages piétons. Faut-il supprimer des passages piétons? On va voir ce qu'en pensent le TCS et l'ATE. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Une autre préoccupation des Suisses, c'est la santé de l'hôtellerie, en particulier en ces périodes de fêtes. L'hôtellerie suisse, objet de toutes les attentions du monde politique. Le Conseil national veut même exempter les hôtels de TVA l'an prochain pour compenser les effets du francfort. Décision généreuse, mais qui fâche un hôtelier. Philippe Guéna, il dénonce une forme d'assistanat. Il en débat avec le patron des hôteliers valaisans, Patrick Béraud. Ce sera dans quelques minutes. Micheline Calmiret est en Turquie demain pour son dernier voyage officiel. Nous appellerons Jérôme Bastion à Istanbul pour évaluer les chances réelles d'une relance de la médiation entre Turcs et Arméniens. Les relations bilatérales entre Berne et Ankara feraient pâlir d'envie la France qui se déchire, elle, avec la Turquie sur fond de reconnaissance du génocide arménien. On appellera enfin l'ancien sauteur à ski Sylvain Freiholtz pour lui demander si son ami Simon Hamann a quelques chances de remporter enfin la tournée des 4 tremplins. C'est le titre qui échappe encore et toujours à son palmarès. Le soleil brillera demain, il fera 3 à 5 degrés l'après-midi en pleine. La météo d'Edmé Fleury, c'est à la fin de ce forum.
Forum, Philippe Reva, Alexandra Cohen.
Quelques heures avant le traditionnel Urbi et Orbi du pape Benoît XVI, Monseigneur Foy de Toile, patriarche latin de Jérusalem, a fait un appel des plus remarqués en ce jour de la Nativité. Celui qui représente la plus haute autorité catholique romaine en Terre Sainte n'a pas hésité à centrer son discours autour de la paix pour tout le Moyen-Orient. Un message de paix délivré depuis l'église Sainte-Catherine, à côté de la basilique de la Nativité à Bethléem, lors de la messe de minuit et en présence du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Moussaïm Enaimi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant pour la RSR, donc dans les territoires palestiniens, et vous avez assisté à la messe de Bethléem hier soir, où le patriarche latin de Jérusalem a prononcé une homélie assez politique, plus que les Noëls précédents, en somme.
Oui, Monseigneur Foy de Toile, comme vous le disiez, la plus haute autorité catholique en Terre Sainte, a débuté son homélie vers minuit devant quelques centaines de chrétiens en l'église Sainte-Catherine, qui est située juste à côté de la basilique de la Nativité, et quelques minutes après que le président palestinien Mahmoud Abbas soit arrivé. Et comme vous le disiez, le ton était plus politique que les Noëls précédents, et on comprend pourquoi. Printemps arabe, impasse du processus de paix israélo-palestinien, donc une année assez chargée sur le plan politique au Proche et au Moyen-Orient. Le patriarche a prié pour le retour au calme et à la réconciliation en Syrie, en Égypte, en Irak et en Afrique du Nord. Il a aussi ajouté que la région traverse des transformations radicales qui ont un impact sur notre présent et notre avenir. Et je le cite encore, nous ne pouvons pas rester comme de simples spectateurs. Et sur la situation israélo-palestinienne, Monseigneur Toile a appelé la région à la paix et à la réconciliation. Il est revenu, c'est une surprise, sur la demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU, une initiative dont le but est, dit-il, de trouver une solution juste au conflit, mais il a regretté que le dirigeant palestinien ait été renvoyé à un processus de paix qui a pourtant échoué et qui laisse un goût amer tant les promesses passées n'ont pas été tenues. Donc le patriarche n'a évidemment jamais cité l'Israélien, mais chacun a compris que le statu quo, l'impasse du dialogue était difficilement acceptable, a fortiori face à l'autorité israélienne intransigeante qui appelle publiquement à la paix, mais qui applique à un programme qui en éloigne la région chaque jour.
Avec nous Benjamin Barthes, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, ancien correspondant de la RSR dans les territoires palestiniens. On va parler avec vous tout à l'heure de votre livre Ramallah Dream, c'est un voyage au cœur du mirage palestinien. D'abord un mot, hein. Chaque Noël, c'est un peu la même cérémonie à Bethléem, le chef de l'autorité palestinienne, on se souvient d'Arafat à l'époque, là c'est Abbas. Discours très politique, quoique ce qu'on dit cette année, les patriarches latins de Jérusalem, ça vous a surpris vous?
Bah écoutez, Fouad Toile avait commencé sa mandature, enfin il est arrivé à la tête du patriarcat latin de Jérusalem, auréolé d'une image d'homme de consensus, plus modéré que son prédécesseur, Monseigneur Saba, qui était un Palestinien et qui était l'homme qui hérissait le poil des Israéliens à chaque homélie, à chaque Noël, parce qu'il était effectivement très incisif, très politique dans ses sermons. Fouad Poil a fait ses premiers sermons étaient moins nets dans ses engagements politiques les premières années. Effectivement, cette année, il est un peu plus carré et comme le disait Moussine Nami, oui, ça doit être très très logiquement le résultat d'une part de cette actualité très chargée dans la région où la politique est au-delà de la politique, ce sont les peuples arabes qui se hissent sur le devant de la scène. Et puis de l'autre côté, il y a cette impasse du processus de paix c'est devenu un marronnier de dire que le processus de paix est dans la presse, mais là on est bien au-delà de l'impasse, hein. On est en train peut-être de vivre les derniers moments de ce processus de paix. Il y a peut-être une reconfiguration générale de ce que pourrait être un règlement israélo-palestinien qui va se dessiner dans les prochains mois, et le patriarche latin voulait être présent dans cette actualité extrêmement chargée.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Benjamin Barthes? On arrive à la fin d'un processus. Bon, dans votre livre, vous dites un régressus de paix. C'est quoi la fin du processus? Tout qui change, c'est on renonce à une solution, un jour, deux États, par exemple?
Écoutez, ce qui est patent de plus en plus et ce qui est de plus en plus visible dans la région, c'est qu'il y a une approche diplomatique, une approche de l'ensemble des acteurs traditionnels de la région qui reste cramponnée à une lecture du conflit à la mode Oslo, c'est-à-dire deux peuples, deux États, finalement un jour ou l'autre avec un peu de bonne volonté, il s'agit juste de les remettre à la table de la négociation en les enfermant quelques semaines, on devrait arriver à une solution. Le problème principal, c'est s'y mettre, s'asseoir à cette fameuse table de négociation. Et puis de l'autre côté, il y a un terrain qui, est largement bien au-delà de cette configuration. On n'est plus du tout, d'un point de vue du terrain, d'un point de vue des réalités quotidiennes, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. On est dans une configuration binationale très clairement sur le terrain. Vous savez, traditionnellement, on visualise le conflit israélo-palestinien de la façon suivante. On se dit, grosso modo, il y a Israël à l'ouest, et puis il y a ce fameux territoire palestinien, la Cisjordanie à l'est, avec le petit confetti de terre qui est la bande de Gaza tout en bas. Alors la bande de Gaza, ça fait longtemps qu'elle a sombré dans un espèce de trou noir, hein. On sait pas grosso modo ce qu'on en fera, mais plus véritablement, les gens s'en intéressent plus vraiment. Et alors la Cisjordanie reste comme ça, dans cette espèce de visualisation très sommaire, reste grosso modo à l'est, et on se dit finalement on pourra toujours à un moment ou à un autre couper en deux ces deux territoires, Israël d'un côté et puis la Cisjordanie. Mais en fait, quelque part, la véritable réalité, c'est pas tant deux territoires l'un à côté de l'autre, c'est Israël qui contrôle l'ensemble de cette terre avec des poches d'habitation arabes. Alors il y a les poches d'habitation arabes israéliennes, il y a les poches d'habitation palestiniennes à Jérusalem, il y a les poches d'habitation palestiniennes en Cisjordanie, où tout ça entouré d'une population juive israélienne. Donc quelque part, la réalité sur le terrain, elle est binationale, et la question désormais qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que le discours va rejoindre cette réalité. On est actuellement là, dans ce questionnement-là.
Alors justement, là, on a envie de se dire, est-ce que Mgr Toile est bien dans son rôle lorsqu'il rappelle tout ça lors d'un discours concernant et lors d'une messe sur la nativité?
Je sais pas si... Enfin, c'est pas à moi de faire... l'arbitre des élégances de l'église latine en Terre Sainte, mais il est évident que la population dans les territoires occupés vit une réalité qui n'a pas grand chose ou voire même pas du tout plus rien à voir avec ce qui se raconte dans ces sempiternelles réunions du quartet et ces poignées de main et ces rencontres diplomatiques, sommets et autres entrevues. Donc quelque part, Mgr Toile se fait l'écho d'un vécu palestinien très 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 simple, très très évident. Et en cela, en tant que pasteur de cette population chrétienne palestinienne, je pense que oui, il est dans son rôle, ouais, quelque part.
Benjamin Barthes, on en parle à chaque Noël à peu près, hein, la situation des chrétiens d'Orient, des chrétiens de Bethléem aussi, une sorte d'exode continu. Il n'y en aura bientôt plus si on continue. C'est vraiment un peu la voie vers laquelle se dirige cette région. Les chrétiens de Palestine, c'est fini à terme, à long terme.
Écoutez, mais oui, effectivement, mais le processus il est double. Hein. Il y a d'une part un processus qui est régional, hein, qui touche l'ensemble des populations chrétiennes du Moyen-Orient, qui avaient un statut important, qui leur était reconnu, avec une population, une importance plus ou moins grande, mais ils avaient un statut de minorité reconnue et quelques privilèges et quelques positions symboliques qui allaient avec. Et puis, alors cette position-là est en train de s'effriter devant la montée en puissance des revendications musulmanes, la montée en puissance de l'islam politique. Et puis l'autre composante, évidemment, en Palestine, c'est effectivement l'occupation israélienne. Il faut savoir que, par exemple, à Bethléem, les chrétiens palestiniens historiquement avaient des positions sociales très 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 reconnues.
C'est un peu l'aristocratie finalement.
Oui, c'était l'aristocratie de la ville de Bethléem. C'est eux qui dirigeaient en grande partie tout ce qui était entreprise touristique, agence de voyage, de tourisme et compagnie. Et au-delà du malaise que certains chrétiens palestiniens peuvent vivre vis-à-vis de la montée en puissance de ces mouvements islamistes, en l'occurrence le Hamas dans les territoires occupés, il y a aussi un phénomène de déclassement social très simple. Hein. Il y a beaucoup de Palestiniens chrétiens qui ont perdu leur situation et à partir de là, parce qu'ils ont la famille au Canada, en Australie, aux États-Unis, il y en a qui de plus en plus réfléchissent à s'exporter à l'étranger, à s'expatrier pour recommencer une nouvelle vie à l'étranger.
Benjamin Barthes, en direct avec nous, journaliste au Monde, spécialiste du Proche-Orient, ancien correspondant à Ramallah durant une dizaine d'années, hein, 2002 à 2011. Vous restez avec nous parce que ça bouge aussi sur un plan politique.
Oui, puisque l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, le Hamas, ensemble pour le pire et pour le meilleur, du jamais vu peut-être, réunis au Caire en fin de semaine dernière. Les factions palestiniennes rivales, le Hamas et donc le Fatah, sont peut-être sur le point de tomber d'accord. Que faut-il en conclure, Moussa Imenaimi, que la réconciliation entre ces deux factions palestiniennes est en bonne route?
Alors, les apparitions publiques entre le Fatah et l'Hamas font désormais partie du paysage politique ici. Après plusieurs mois de gestation, on a l'impression que les deux parties sont maintenant en train de faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire depuis avril dernier. Mahmoud Abbas l'a dit fermement et clairement dans un discours récemment prononcé en novembre dernier, la réconciliation nationale est une priorité. Alors, on n'en est pas encore là, mais si cela devait se produire, ce serait effectivement un changement important. La première grande nouvelle, c'est que le Hamas rejoindrait l'OLP. L'OLP, vous le savez, c'est l'organisation en charge de défendre les quelques millions de Palestiniens à l'étranger. Seule organisation capable de négocier en leur nom et reconnue par toutes les instances, la Ligue arabe, le Quartet et Israël, évidemment. Alors, l'OLP a signé plusieurs accords et l'adhésion du Hamas signifierait donc l'adhésion à ces accords, dont la reconnaissance d'Israël. Alors, on n'en est pas là, on s'y dirige, peut-être. En tout cas, ce serait une première si cela devait se produire. L'autre changement concerne l'organisation d'élections. Elles devraient avoir lieu en mai prochain, si elles ont lieu. Récemment, un diplomate me confiait qu'il n'y croyait pas trop. Et enfin, il y a un dernier point. Un membre du Hamas me disait, il n'y a pas très longtemps, que la réconciliation sur le plan éthique et politique peut se faire. Il y a plusieurs barrières à franchir. Mais que ce sont les Américains qui s'opposent à cette réconciliation, car ils ne veulent pas justement avoir un gouvernement d'union nationale avec le Fatah et le Hamas, qui évidemment serait un élément de poids pour justement s'affirmer à la table de négociation avec Israël.
Merci beaucoup, Moussa Imenaimi. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans les territoires palestiniens.
Benjamin Barthes, on y croit, on n'y croit pas. Il y a beaucoup d'annonces de ce genre-là, la grande réconciliation palestinienne. En même temps, pour le Fatah, pour Abbas, c'est pas forcément très recommandable, non, de se mettre avec le Hamas. On comprend la réticence des Israéliens, des États-Unis.
Ouais, c'est pas recommandable si on prend le curseur diplomatique comme point de référence, mais si on s'intéresse à ce que veut la population, c'est extrêmement recommandable. La population palestinienne depuis 2006-2007, c'est-à-dire depuis la partition du camp palestinien avec d'un côté le Fatah et de l'autre côté le Hamas, la population palestinienne n'a pas changé de point de vue. Elle veut l'unité, elle demande l'unité en permanence et de ce point de vue-là, pour le président Mahmoud Abbas, c'est une comment dire un mouvement gagnant, une comment dire une mesure tout à fait bénéfique pour lui et peut-être pour son camp. Alors ça c'est une autre question, mais ce qui est intéressant chez le président Mahmoud Abbas, c'est que vous savez, il a annoncé qu'il ne se représenterait pas en cas d'élection présidentielle. Donc quelque part on peut se demander si Mahmoud Abbas désormais est pas en train de se soucier davantage de l'image qu'il va laisser dans l'histoire, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas en train un peu de sculpter son image, d'être attaché à la défense de son héritage plus qu'à la défense des intérêts de son propre parti. Hein. Il a été le président qui a contribué d'une certaine façon à la division du camp palestinien. Il n'est pas impossible qu'il veuille être le président qui présiderait à la réunification de ce même camp palestinien et donc sortir de l'histoire par la grande porte. Donc ça, c'est l'une des inconnues de ce processus hein, qui est en train de se mettre en place de façon de plus en plus nette, comme Moussine Naimi l'a expliqué. Il y a quelques mois, on en doutait. Là, ça paraît un petit peu plus probable qu'auparavant. Il y a deux facteurs qui pourraient pousser en faveur de cette réconciliation. L'équation personnelle du président Abbas, je viens d'en parler. Et puis l'autre élément intéressant, c'est le rapport entre le Hamas et les frères musulmans. On a craint, au début du processus électoral égyptien, on a craint que la montée en puissance très attendue, quasi programmée des frères musulmans, le mouvement islamiste égyptien, ne contribue à radicaliser le Hamas. Et puis là, par rapport à ce qu'on entend, d'après ce qu'on entend, tant du point de vue des diplomates auxquels j'ai pu parler que de certains représentants du Fatah, il y a le sentiment que, somme toute, la montée en puissance des frères musulmans pourrait inciter le Hamas à modérer ses positions. Pourquoi ? La réponse est un peu complexe, mais en fait, elle est relativement logique. Les frères musulmans partent du point de vue que, dans la situation actuelle où les islamistes, un peu partout dans le Moyen-Orient, se hissent ou sont en train de se hisser au pouvoir à la régulière, à travers les urnes, à travers un processus électoral transparent et démocratique, les frères musulmans seraient de l'avis que le Hamas ne peut pas rester à la marge, en retrait de cette vague verte historique, et que lui aussi doit, à sa façon aussi, se plier désormais dans les formes du processus démocratique, et donc remettre en jeu son mandat pour être relégitimé par les urnes.
Benjamin Barthes, alors là, on comprend bien que la question du Hamas et du Fatah, eh bien finalement, elle touche plus que la région du Proche-Orient, elle touche tout le Moyen-Orient, alors finalement.
Oui, bien sûr. La situation dans les territoires occupés est évidemment impactée par ce qui se passe en général dans la région. Il y a le conflit israélo-palestinien et l'un des conflits où à la fois les voisins et puis les grandes puissances ont en permanence interféré pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a évidemment une interpénétration de toutes ces influences. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être là, alors que ces dernières années, l'influence internationale se faisait plutôt au détriment de la population palestinienne, peut-être qu'en tout cas, la donne régionale, avec d'un côté cette influence peut-être bénéfique des frères musulmans sur le Hamas, et puis de l'autre côté, il y a aussi un élément important à mentionner, c'est le fait qu'avec le soulèvement en Syrie, les frères musulmans, le Hamas qui est basé, vous savez que le bureau politique du Hamas est basé à Damas, le Hamas, dès le début du soulèvement en Syrie, a adopté une position très neutre, hein, alors que Bachar al-Assad est sommé de se prononcer en faveur du pouvoir basse, du parti basse, et donc de Bachar al-Assad. Le Hamas a refusé de se plier aux injonctions de Bachar al-Assad, a adopté une position très neutre, et de plus en plus, là, il y a des rumeurs qui font état du fait que certains représentants du Hamas quittent Damas pour se réinstaller dans la bande de Gaza. Il y a le sentiment que le Hamas prend de plus en plus ses distances avec son patron syrien et quelque part se mettrait davantage sous l'influence du pouvoir au Caire, voire
en Égypte. Ouais.
L'influence régionale.
Benjamin Barthes en direct avec nous. Antoine Sfer nous a rejoint. Bonsoir Antoine Sfer.
Bonsoir.
Directeur des Cahiers de l'Orient. On commençait cette discussion, Antoine Sfer, en partant de Bethléem. Ce 25 décembre, c'est bien naturel. Ces déclarations du patriarche latin de Jérusalem, discours assez politique. Alors souvent des revendications, on en profite. Hein, il y a les médias qui sont là, il y a aussi les responsables palestiniens. Cette année, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce qui s'est passé à Bethléem, Antoine Sfer ?
Alors, il y a trois choses qui sont importantes. C'est pas du tout le fait que ce soit un discours politique, puisque tous les ans, c'en est un. C'est à l'aune de la situation régionale, le patriarche latin Foatoual a insisté aujourd'hui sur la nécessité de reprendre les négociations. Ça, c'est un premier point qui me semble très important. Et en même temps, il a repris les termes du discours de Mahmoud Abbas à l'ONU, autrement dit, non seulement une reconnaissance de l'État d'Israël, mais en arabe, il a utilisé le mot de légitimité. Israël est légitime. Ça aussi, c'est important aux yeux de la communauté internationale. Mais en même temps, il est vrai aussi qu'il a parlé des chrétiens d'Orient. Il était dans son rôle. Les chrétiens d'Orient, aujourd'hui, se sentent partout dans le monde arabe, y compris en Palestine, menacés. Menacé, bien entendu, par la montée d'un islam radical, auquel le patriarche a associé aussi un peu la politique israélienne d'une manière concrète, par la colonisation, etc. Donc là aussi, c'était nouveau, dans la mesure où les chrétiens d'Orient, et surtout de Palestine, ont toujours joui d'une situation particulière, en quelque sorte, notamment dans le domaine économique, dans la situation économique, dans le domaine économique.
Antoine Sfer, les chrétiens s'inquiètent chaque année un peu plus, et chaque année un peu plus disparaissent de la région aussi. Vous partagez un certain scepticisme dont on parlait avec Benjamin Barthes, non?
Pas vraiment. Il faut pas dire qu'ils sont en train de disparaître. Leur destin a toujours été, depuis 13 siècles, de vivre au bord du précipice et de passer toute leur vie à lutter pour ne pas y sombrer. Et ils sont certes partis en masse à chaque fois qu'il y a eu des crises au 19e siècle, au 20e siècle et là, au début du 21e, bien entendu. Mais en même temps, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont toujours acteurs de l'économie, que ce soit en Syrie, en Égypte.
Mais ils sont de moins en moins nombreux, Antoine Sfer.
Ils changent beaucoup d'endroits, c'est vrai. Ils sont en train de craindre pour leur vie. La moitié d'entre eux a disparu en Irak, ne l'oublions pas. Donc c'est vrai que ce problème existe. Aujourd'hui, les chrétiens d'Orient espèrent un véritable processus démocratique. Et pas les chrétiens seulement, mais toutes les autres communautés minoritaires. Et en même temps, si vous les déplorez, le fait que la communauté internationale semble totalement ignorer les tenants et les aboutissants et se désintéresser. Aujourd'hui, quel est l'allié le plus sûr de Bachar al-Assad? C'est Israël. Aujourd'hui, les Israéliens ne cachent pas leur volonté de voir maintenir le régime dans la mesure où ils savent ce qu'ils ont, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Éventuellement. Donc, aujourd'hui, la situation est très tendue. Elle peut basculer d'un côté comme de l'autre à chaque instant.
Une dernière question, Antoine Sfer. Vous y croyez-vous au rapprochement Hamas-Fatah?
Si le Hamas accepte des élections, il sait très bien qu'il fera entre 23 et 27%, pas plus. Mais si jamais il n'accepte pas, si jamais il déclenche des émeutes ou des revendications, comme dans d'autres pays arabes, contre le Fatah et l'autorité palestinienne, il peut à ce moment jouer sur la carte du populisme. Cela dit, il aura beaucoup de mal, dans la mesure où depuis 4 ans, Salam Fayyad, le premier ministre, a rendu la Cisjordanie à la Cisjordanie un mieux-être, un bien-être économique certain, une croissance réelle, et tout cela joue contre le Hamas, alors que les habitants de Gaza aujourd'hui sont dans une situation à la fois sociale et économique catastrophique.
Ouais, et puis un trou noir, disait Benjamin Barthes. Je vous remercie beaucoup, Antoine Sfer, d'être venu en direct ce soir parler de ce qu'on appelle la Terre Sainte. Un dernier mot avec vous, Benjamin Barthes, parce que c'est votre ouvrage, En dire un mot, elle nous offre la transition parfaite, Antoine Sfer, en parlant du boom économique en Cisjordanie, à Ramallah, avec le Premier ministre Fayyad. Vous dites que c'est un mirage, hein, ce qui se passe.
Oui, bien sûr, c'est un mirage complet. Il y a un effet de loupe, parce que les médias et les diplomates ont souvent l'habitude d'aller à Ramallah, et exclusivement des fois à Ramallah. Mais la Cisjordanie, ça ne se limite pas à Ramallah. La Cisjordanie, en Cisjordanie, il y a des zones où la misère, où la précarisation est parfois plus grande que dans la bande de Gaza. Vous savez que la Cisjordanie, c'est trois zones. Hein. Il y a des zones A, qui sont les zones où l'autorité palestinienne est autonome, donc a les moyens d'opérer un certain développement économique. Il y a les zones B, où l'autorité palestinienne doit, comment dire, partager sa tutelle avec l'armée israélienne qui garde le contrôle de la sécurité. Puis il y a la zone C où l'armée israélienne, comment dire, est totalement souveraine, tant pour les questions civiles que pour les questions sécuritaires. Et cette zone C, elle représente 60% de la Cisjordanie. Autrement dit, sur plus de la moitié du territoire de la Cisjordanie, le développement économique est complètement impossible. Donc il faut vraiment être très prudent quand on aborde les questions économiques palestiniennes, parce que il y a un enrichissement superficiel dans la zone de Ramallah qui est dû essentiellement à l'industrie de l'aide, c'est-à-dire les piscines de billets verts que la communauté internationale déverse depuis des années de façon extrêmement massive sur l'économie palestinienne et principalement sur Ramallah, parce que c'est là que sont concentrés essentiellement les ONG, les ministères palestiniens, les agences de développement, etc. Mais d'une part, le reste de la Cisjordanie reste souvent, comment dire,
en dehors de cette,
de cette manne. Et puis l'autre raison, c'est que cette aide internationale peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc,
les piscines de billets de dollars. Je vous remercie beaucoup. Ben, l'image, elle est assez parlante, Benjamin Barthes. Je rappelle votre livre, Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien. C'est aux éditions La Découverte. On remercie aussi Antoine Sfer. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup.
Infotrafic RSR.
En Suisse alémanique, sur l'axe Zurich-Berne, le trafic est à nouveau fluide entre l'aire de service de Gunzgen et la jonction Dunzingen en direction de Berne.
En Suisse, les piétons sont la cible du directeur de l'Office fédéral des routes. Rudolf Dieter les dénonce dans les colonnes du Sonntag Zeitung, le nombre trop important de passages piétons, souvent mal équipés et déficitaires. Selon lui, la Confédération incompétente dans ce domaine souhaite tout de même aider les cantons et communes à mettre en place un examen des risques. Une mesure qui arrive peut-être à point nommé après une série d'accidents noirs qui a coûté la vie à plusieurs personnes ces dernières semaines.
Avec nous deux invités, on va voir ce qu'ils en pensent. Tiens, y a-t-il trop de passages piétons en Suisse? Pourquoi pas, après tout. Caroline Benglinger est avec nous, responsable politique à la TE, l'association Transport et Environnement, et puis Jean-Marc Thévenin, chef de la sécurité routière au TCS. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Peut-être, Caroline Beglinger, tout d'abord, a priori, du côté de la TE, on se dit, les passages piétons, on aime plutôt ça, l'association Transport et Environnement, mais vous pourriez dire aussi, comme le directeur de l'Office fédéral des routes, il y en a peut-être quand même un peu trop.
Je dirais qu'il y en a trop qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas suffisamment sûrs. Ça, il me semble que les derniers événements le montrent. Mais de là à dire qu'il y aurait trop de passages piétons, ça me semblerait tout à fait faux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça reflète un passage piéton? Ça ne reflète rien d'autre que le désir des gens de pouvoir traverser la route. Je pense que c'est un désir tout à fait légitime. Il faut savoir se partager l'espace, il faut savoir pouvoir croiser quelque part. Donc la question, c'est pas savoir est-ce qu'il y a trop de passages piétons, mais la question est de savoir comment faut-il équiper un passage piéton et comment faut-il régulariser la vitesse pour qu'un passage piéton sert vraiment son objectif, c'est-à-dire qu'il permette de traverser de façon sûre la route aux piétons et aux piétonnes.
Jean-Marc Thévenin, on pourrait dire trop de passages piétons tuent les passages piétons, on s'y habitue, il y en a trop partout, du coup ça devient plus dangereux, on fait moins attention. Alors, vous n'allez pas jusque-là?
Non, c'est tout à fait juste, il y a trop de passages piétons, est-ce qu'il faut... La théorie de Mme Linguer pourrait s'appliquer si les accidents se trouvaient que sur les passages piétons. Malheureusement, on sait qu'à peu près 50% des tués des piétons sont aussi en dehors des passages piétons. Ça veut dire que même s'il y a des passages piétons en suffisance, les gens ne respectent pas. Et pour nous, ce que dit l'Office fédéral des routes aujourd'hui, c'est un super cadeau de Noël. Ça fait 5 ans qu'on fait des tests et qu'on...
Vous rêvez de les supprimer, ces passages?
Mais justement, ça fait 5 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Ils sont mal conçus, ils sont mal placés, il y en a trop. C'est pas normal qu'en Suisse, on a des pays qui avaient le plus de progression en termes de réduction du nombre de victimes de la route par rapport à l'étranger, sauf sur un point, sur les passages piétons. Là, on est mauvais. On a un problème vraiment avec la qualité des passages piétons et avec le nombre.
Caroline Beglinger, finalement, on voit que quelque part, vous vous rejoignez, il y a trop de passages piétons qui sont mal équipés. Le mot mal équipé ou déficitaire revient en permanence. Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir en tout cas un réaménagement.
Alors en tout cas, il faut déjà une analyse très très sérieuse pour savoir qu'est-ce qui se passe sur ces passages piétons, où sont-ils situés, comment sont-ils annoncés, est-ce qu'il y a vraiment une visibilité suffisante, est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de freiner à terme, etc. Et après, il faut les mesures nécessaires pour vraiment les assainir.
Mais vous n'excluez pas d'en supprimer complètement?
Pour ma part, je pense que c'est un mauvais choix parce que les gens vont devoir traverser quand même et on oublie un tout petit peu les usagers les plus faibles, donc les enfants et les personnes âgées, qui ont, pour les personnes âgées, par exemple, 6 fois plus de risques qu'un piéton de 20 ans d'avoir un accident ou d'être victime d'un accident sur la route. Et je pense que pour ces personnes-là, c'est très important, pour les petits, pour les aînés, d'avoir des passages sécurisés, d'avoir la priorité à un endroit où ils savent, ils peuvent croiser. Donc, pour moi, le problème, c'est l'équipement des passages piétons et pas leur nombre.
Jean-Marc, tu es venu à un examen des risques en cette période où il y a une série noire, hein, comme on dit. Ouais. Quelque part, c'est la moindre des choses, non ?
C'est la moindre des choses, c'est une bonne chose, justement. Effectivement, c'est à chaque commune à faire l'analyse de sa situation. On vient d'analyser cette année 10 villes avec 10 passages piétons, une centaine de passages piétons. Nous allons reconduire l'année prochaine le même exercice, des tests, et l'année suivante aussi. On aura quand même une bonne image dans les villes les plus importantes, dans les régions les plus importantes, quelle est la situation. Et ce que dit madame, mais c'est juste, il faut faire une analyse de risque. On a des normes qui sont bien définies, comment construire un passage piéton. On se rend compte qu'il y a maintenant dans les communes, dans les petits villages ou dans certains quartiers, il y a des choses qui sont vraiment scandaleuses. On a sorti des exemples par hasard, hein. On a sorti des exemples qui sont catastrophiques, l'éclairage est insuffisant. Alors bien sûr, un enfant, une personne âgée, il faut qu'on le protège, mais pour le protéger, il faut vraiment qu'il y ait un éclairage suffisant, que le passage piéton soit bien marqué, que l'automobiliste puisse le voir d'avance. Et ça, dans environ 50% des cas, on a vu que ce n'était pas le cas, malheureusement.
Mais Caroline Beglinger, peut-être sur un plan un peu plus philosophique, si vous promenez à Palerme en voiture, vous prenez un rond-point ou des feux, enfin, personne ne respecte rien du tout, on a l'impression qu'il y a peut-être moins de chances d'avoir un accident grave parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Au fond, on y va en se disant, faut faire attention, on fait attention à tout parce que, contrairement à la Suisse où c'est vert, on y va, on regarde pas, tout est normé, il y a un passage piéton, on y va sans regarder, là, on doit faire attention un peu plus. Finalement, est-ce que le fait de tout normer, de tout contrôler, d'avertir de tout n'est pas à contre-emploi, au fond, contre-productif?
Alors on pourrait dire effectivement, il y a peut-être une question philosophique à ce niveau. Les zones de rencontre qu'on a vu naître, qui sont d'ailleurs une invention de l'ATE, en tout cas au niveau suisse, ensemble avec la ville de Berthoud, on voit que sur des espaces limités, avec des vitesses limitées, on réussit exactement à instaurer un régime, je dirais, d'empathie ou d'attention mutuelle, où effectivement, les piétons font attention aux voitures, les voitures font attention aux cyclistes, et on arrive à avoir un régime tout à fait satisfaisant pour tous les usagers. Pour le moment, la zone de rencontre, elle est limitée à des espaces réduits, elle est limitée, je dirais, à des zones urbaines ou peut-être périurbaines. Je vois difficilement étendre ce régime partout. Par contre, effectivement, dans certains villages, je dirais qu'il y a déjà une diminution de la vitesse, une vraie entrée dans le village où on se rend compte, voilà, une zone habitable, pas uniquement un panneau, ça pourrait déjà beaucoup, beaucoup améliorer la situation. Il ne suffit pas d'établir un règlement, il faut aussi le rendre visible, il faut vraiment le faire remarquer aux usagers de la route et aux piétons. Et il me semble que, je dirais pas que, généralement, ce qu'on appelle le shared space peut être une solution, mais on pourrait s'imaginer la zone de rencontre encore à plein d'endroits où actuellement
elle est pas... Ouais, ajouter des endroits. Ouais, Jean-Marc, je vais pas dire que Palerme, c'est le rêve en matière d'automobile, mais zone de rencontre comme ça, où il faut faire attention un peu à tout parce que, voilà, on est plus responsabilisé au fond.
Bon, écoutez, les zones de rencontre, elles sont placées vraiment dans les endroits stratégiques, un centre-ville, vers une école, vers un hôpital, comme ça, ça fait du sens. De les étendre, comme on voit maintenant dans les zones 30 aussi, de les étendre un peu partout parce qu'on veut simplement ralentir le trafic, c'est pas une bonne chose. Ces zones de rencontre, elles doivent être bien pensées, elles doivent être réfléchies, elles doivent être aussi équipées où l'automobiliste va se rendre compte qu'il y a un changement de régime. C'est pas simplement mettre un panneau vitesse 30 à l'heure ou 20 à l'heure dans une zone de rencontre pour que là, la vitesse soit respectée. Et nous, on est favorable à ces zones de rencontre dans un milieu vraiment d'habitat. Mais comme on voit maintenant, je prends l'exemple de Crissier, où ils ont introduit cette zone 30, par exemple, presque à l'ensemble de la ville, c'est une vraie galerie. Les gens ne savent plus, ça ne fait pas de sens. Quoi.
Ça ne vous fait pas de sens. Sens interdit pour vous, Jean-Marc Thévenin. Je vous remercie beaucoup de ces réactions, Jean-Marc Thévenin et Caroline Beglinger. Je vous souhaite une excellente soirée de Noël.
Merci, bon, à vous aussi. Joyeux Noël.
Micheline Calmiret se rend dès demain en Turquie. La présidente de la Confédération, encore pour quelques jours, doit s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et le président turc d'un thème qui est tout à à fait dans l'air du temps la question arménienne. Il s'agit de relancer la médiation helvétique entre Ankara et Erevan, inaugurée à Zurich en 2009 avec la signature d'un protocole de rapprochement, resté depuis sans suite. La Suisse a reconnu et choisi de pénaliser la négation du génocide arménien, a malgré tout gardé de bons rapports avec la Turquie contrairement à la France, et même si l'histoire de leur relation bilatérale n'a pas toujours été très simple. On rejoint à Istanbul notre correspondant Jérôme Bastion, bonjour.
Bonsoir.
Pourquoi la Suisse réussit-elle mieux que la France, justement, dans les relations avec la Turquie ?
Bah écoutez, je crois qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y a d'abord une donnée objective, c'est que la Confédération ne peut pas être soupçonnée d'utiliser cette cause contre la Turquie en mettant en balance son adhésion à l'Union européenne, et pour cause, elle n'en fait pas partie. Or, la France est en même temps un des pays qui s'oppose le plus fermement à l'entrée de la Turquie dans le club européen, d'où des rapports régulièrement tendus entre Ankara et Paris. Il y a aussi une donnée beaucoup plus subjective, c'est la personnalité du président Sarkozy qui est très mal perçu en Turquie en raison de ses attaques régulières contre ce pays, même souvent hors contexte, ce qui fait qu'il est considéré comme le principal instigateur de cette loi adoptée par l'Assemblée nationale française, avancée pour des raisons essentiellement électoralistes, et bien qu'il ait promis en 2006 de ne pas laisser passer un tel texte. Ensuite, on peut aussi citer la traditionnelle discrétion et surtout neutralité de la diplomatie suisse, beaucoup plus volontariste ces dernières années, à comparer avec l'absence, on peut le dire, de diplomatie française crédible depuis une quinzaine d'années, et surtout son manque de neutralité, puisqu'il faut le rappeler, la France fait partie du groupe de Minsk, comme du protocole de Zurich. Elle se retrouve donc dans cette histoire un peu juge et partie.
Alors, où en est cette tentative de rapprochement, de réconciliation entre Turquie et Arménie, justement, plus de deux ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché, là, finalement ?
Bah écoutez, cette tentative, effectivement, elle est bloquée complètement, malheureusement, et malgré l'espoir que cet accord avait suscité depuis quelques mois après sa signature, le Parlement arménien n'a jamais ratifié ce texte, parce que la Turquie demandait à Erevan, en guise de geste de bonne volonté, d'entamer un retrait des provinces occupées par l'Arménie en Azerbaïdjan. Erevan a estimé qu'il ne devait pas y avoir de questions, de principes, de préconditions. C'est le troisième acteur dans cette affaire, l'Azerbaïdjan. Et malheureusement, les parrains de cet accord de 2009 n'ont jamais cherché à peser sur le cours des choses. C'est sans doute dommage car le protocole de Zurich contenait de quoi déminer cette bombe à retardement qui aujourd'hui explose à nouveau à la tête, si on peut dire, de Paris et d'Ankara.
Jérôme Bastion, donc correspondant à Istanbul pour la RSR. Merci, bonsoir.
On va parler de Russie immédiatement dans ce forum. 18h37, Pavel Spiridonov avec nous, doctorant à l'Université de Lausanne, en Suisse depuis 10 ans, de Saint-Pétersbourg. Merci d'être dans nos studios, Pavel Spiridonov.
Merci à vous, bonsoir.
Et Boris Kagarlitsky avec nous en direct de Moscou, directeur de l'Institut sur la globalisation, ancien dissident. Bonsoir à vous, depuis Moscou.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct. Pavel Spiridonov, hier, manifestation à Moscou, on en a beaucoup parlé, où on commence à dire, le mot d'ordre de plus en plus, c'est « Poutine doit partir ». Or, on avait beaucoup dit, il n'y a pas de figure dans l'opposition qui peut prendre le relais. Les révolutions, on a déjà donné en Russie. On ne veut plus de ces gros changements brusques qui ont apporté tellement de problèmes, de douleurs. Vous vous dites, malgré tout, oui, Poutine doit partir. Lui, il ne peut pas assurer le changement.
Je trouve qu'il peut effectivement ne pas assurer le changement. Mais le problème pour Poutine, c'est que pour lui, ça sera très difficile de partir. Car il a trop à perdre, déjà. Puis, effectivement, il y a aussi la division chez les manifestants, à mon avis, en tout cas ce que j'ai observé. Il y a une partie qui veut avoir la discussion avec le pouvoir, lancer la discussion, avoir les négociations éventuellement, et l'autre partie qui veut vraiment le départ de Poutine.
Boris Kagarlitsky, vous avez l'impression que on peut dire ouais, Poutine doit partir. On a l'impression que c'est pas possible au niveau des forces politiques aujourd'hui en Russie.
Le problème, ce n'est pas les manifestations, parce que oui, on peut manifester et rien change. Le problème réel est la décomposition du système bureaucratique, la décomposition du système de l'État qui commence déjà et qui va s'accélérer. Et pour ça, le problème, ce n'est pas ce qu'il y a des gens qui veulent Poutine à partir, mais la crise politique qui va détruire Poutine avec l'État, avec tout le système.
Vous pensez vraiment qu'on peut aller jusque-là ? À votre avis, c'est quelque chose qui s'est enclenché, ça ne va pas s'arrêter ?
Ah, pardon ?
Vous avez l'impression que Poutine a perdu la partie, en quelque sorte. Il va être renversé par ce mouvement.
système bureaucratique de l'État ne fonctionne pas. Même la situation avec les élections, c'est une preuve d'évidence qu'il n'y a pas de système qui peut marcher. Parce que la bureaucratie, même dans l'administration de Poutine, ne pouvait faire ce que le gouvernement, le chef, voulait faire. Alors, la crise économique, c'est l'autre aspect du problème, parce que c'est très clair que le compromis de Poutine c'était se basait sur la capacité de l'État, du gouvernement, de donner quelque chose à chacun. Et maintenant, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de ressources pour ça. Et alors, pour ça, le compromis politique ne fonctionne pas et tout le système est en train de décomposer.
Mais Boris Kagarlitsky, quoi à la place ensuite? Qu'est-ce qui peut succéder à ce système qui est en train de s'effondrer, d'après vous?
Je ne sais pas, parce que c'est un cri de, on peut dire peut-être révolutionnaire, mais aussi un vacuum de pouvoir qui se produit dans ce processus. Nous sommes dans la première étape de la crise qui doit s'accélérer et développer, mais c'est pas possible de faire une prévision sur
ce qui va se passer. Ouais, Pavel Spiridonov, vous écoutez depuis Lausanne ici, Boris Kagarlitsky en direct de Moscou. Bah, ce qu'il dit, c'est assez, ça va assez loin. Mais vous, ça vous enthousiasme quand vous entendez ça, ou au contraire, ça vous fait un peu peur? Vous dites, mais c'est un peu l'inconnu là qui attend la Russie.
C'est un peu l'inconnu qui attend la Russie, mais moi, ça me fait pas peur. Moi, je vois pas ce scénario se réaliser prochainement. À mon avis, le pouvoir, il a encore beaucoup de ressources à utiliser. Et ce que moi, je remarquais dernièrement, les dernières semaines, c'est que le pouvoir, il est en train de récupérer justement les mouvements des gens. J'ai ce sentiment parce que deux dernières semaines, il y a des propositions de Medvedev, il y a les propositions de Poutine pour les changements, pour les réformes, en tout cas les réformes de la loi électorale. Après, si ça va se réaliser, ça c'est une autre question. Puis ils vont pas perdre si facilement.
Vous y croyez, vous, Boris Kagarlitsky, Medvedev ou Poutine qui change, le régime qui essaie de récupérer le mouvement?
Ouais, ce que j'ai dit déjà, que le mouvement n'est pas fort, et le mouvement n'est pas un grand problème pour le pouvoir. Le problème pour le pouvoir, c'est l'économie et c'est la bureaucratie. Et je ne pense pas que c'est le mouvement que peut changer l'État, changer la situation. Au minimum, c'est pas l'espèce de mouvement que nous avons maintenant, parce que pour dire la vérité, le mouvement est très faible. Et la raison pour le gouvernement de commencer de parler des concessions immédiatement, même quand le mouvement est très très faible, c'est parce que tout le monde comprend qu'il y a des choses beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus sérieuses que le mouvement. Et ce que j'ai dit, que le défi réel, le problème réel pour le gouvernement, ce n'est pas le mouvement contre l'État, mais c'est les problèmes dans l'État même, dans l'élite même, dans les structures économiques corporatives de gouvernement qui sont maintenant en train de commencer quelque espèce de guerre civile froide entre eux.
Oui, mais de commencer là, Boris Kagarlitsky, il commence à peine. Combien de temps faudra-t-il avant que finalement on voit tomber ce système qui, vous nous le dites aujourd'hui, est en décomposition?
Oui.
Mais combien de temps avant de le voir tomber réellement?
Je ne sais pas, mais ça dépend de l'économie mondiale. Si la crise économique mondiale va développer, avec la chute d'euro par exemple, avec la chute des prix de pétrole, le processus de décomposition va s'accélérer. Si la situation économique mondiale globale va se stabiliser, alors on peut dire que le gouvernement russe, l'administration de Poutine et Medvedev peut acheter un peu de temps.
Pavel Spiridonov, alors là, on a l'impression aujourd'hui, nous, depuis la Suisse, ce qu'on voit, c'est des manifestants qui sont dans les rues, qui protestent pour faire sortir un Vladimir Poutine de Russie. Et puis là, on voit Boris Gagarlitsky qui nous explique en fait, non, c'est la crise économique, finalement, qui est en train de détruire le système qui existe aujourd'hui et qui est en place à Moscou. C'est aussi votre vision ou pas du tout?
J'ai bien peur que la crise économique, elle est en train de détruire l'État. Pas le système de Poutine ou le système qu'il a mis en place. Parce que finalement, si le système s'écroule, il y a une autre système qui peut se mettre en place. Mais au moment que les gens ne peuvent plus gagner sa vie, c'est une crise beaucoup plus profonde et très différente. En ce moment, les gens en Russie ils se préoccupent effectivement beaucoup plus de leur travail, de ne pas le perdre, de pouvoir gagner sa vie. Et bon, il faut ne pas oublier que ni Moscou ni Saint-Pétersbourg, c'est pas la Russie. La Russie, c'est tout ce qui est ailleurs dans les régions. Mm-hmm. Et malgré, il y a des manifestations. Il y avait des manifestations dans les régions, mais ils sont beaucoup moins suivis, bien évidemment, qu'à Moscou. Mm-hmm. Et le soutien politique de Poutine, ça se passe, c'est dans les régions. Mm-hmm. C'est même pas dans les grandes villes.
Pavel Spiridonov, je vous remercie beaucoup d'être venu dans nos studios ici à Lausanne pour débattre avec Boris Kagarlitsky en direct de Moscou. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci.
Et puis on va revenir en Suisse pour parler, c'est un sujet de saison, Alexandra Cohen, les hôteliers.
Oui, puisque les vacances ont commencé, la neige est au rendez-vous. Mais qu'en est-il des touristes venus en Suisse? Sont-ils là malgré le Francfort? Les hôtels ont-ils fait le plein ou sont-ils en train de traverser une crise majeure? Une crise que le Conseil national a tenté d'ailleurs d'adoucir en annonçant une exonération de la TVA pour l'an prochain. Une motion chargeant le gouvernement de soumettre au Parlement un projet allant dans ce sens. Un joli côté de cadeau de Noël peut-être, ou alors un écran de fumée, c'est la question qu'on peut se poser ce soir.
Oui, on va la poser à deux hôteliers. Tiens, Patrick Béraud, directeur de l'Association des hôteliers du Valais, et Philippe Guénard, propriétaire de plusieurs hôtels, cofondateur du groupe hôtelier Hôtel et Patrimoine. Vous avez notamment l'Hôtel des Nations à Genève, Philippe Guénard. Alors, messieurs les hôteliers, bonsoir.
Bonsoir, bon Noël à vous tous. Je salue mon ami Béraud qui est dans le Valais.
Vous le saluez aussi, monsieur Béraud.
Bonsoir à tous, oui, effectivement.
Comment ça va la fréquentation, Patrick Béraud, pour commencer, ces hôtels?
La fréquentation dépend beaucoup des régions. Elle est très disparate d'une région à l'autre. Et il semblerait que l'hôtellerie de haut de gamme résiste mieux que la gamme moyenne, on dira.
Alors, Patrick Béraud, pour les hôteliers du Valais, Philippe Guénard, vous êtes avec nous. Vous êtes un peu une voix, disons, plus rare parmi les hôteliers. Vous êtes contre les mesures du Conseil national à baisser la TVA. Vous étiez déjà contre qu'on les aide trop, ces hôteliers, avec cette mesure-là. La TVA, on sait qu'elle est plus basse pour les hôteliers, en règle générale, déjà, même sans ces mesures spéciales contre le Francfort. Vous vous maintenez, Philippe Guénard, malgré tout?
Alors écoutez, il y a effectivement quelques mois en arrière, on avait eu une interview où j'avais dit que j'étais contre une réduction de la TVA, parce que notre TVA est déjà très, très basse, et une réduction, je voyais pas très bien. Maintenant, une suppression de la TVA, on parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux, et ça va dans un sens qui est beaucoup plus positif. Je voulais dire aussi que pour nous, hôteliers, je pense que la prise de décision de la Banque centrale de fixer l'euro à 1,20 était une très bonne chose. Beaucoup d'entre nous, et j'étais parmi deux, on aurait souhaité à 1,30, mais bon, c'est déjà un très bon signe. Maintenant, pourquoi est-ce que cette TVA, ça peut être une arme à double tranchant? Il ne faut pas oublier que plus de 80% des hôtels en Suisse ont moins de 50 chambres. Et on parle d'un volume d'argent. Alors, pour un hôtel de 3 étoiles, de moins de 50 chambres, l'économie sur la TVA, je le crains, elle sera très faible. Alors que pour les 4 étoiles ou les 5 étoiles, l'économie sera beaucoup plus importante. Et moi-même, pour préparer cette émission, j'ai fait mes calculs, j'ai été regarder dans mes chiffres. Dans mes hôtels 3 étoiles, ça sera l'économie de quelques dizaines de milliers de francs, mais très petites dizaines de milliers de francs. Alors pour un hôtel de 4 étoiles, on parle de 120 à 140 000 francs d'économie. Ce qui veut dire qu'à grâce à ça, je peux sauver en tout cas 3 places de travail. Voilà.
Ouais, Patrick Béraud, on est en train d'aider les plus riches, les plus richement dotés en étoiles avec cette TVA.
Bon, Monsieur Guénard a raison dans son raisonnement, bien sûr. Je dirais que pour nous, le problème est un petit peu différent parce que on sait que l'hôtellerie de ville et l'hôtellerie de station, qu'on appelle resort, sont deux industries touristiques très différentes. Pour nous, c'est relativement simple. La chute de l'euro ou le renchérissement du fort, du franc, ont été très rapides. Ce qui fait que les hôteliers, pour défendre leur part de marché, ont dû baisser leurs tarifs en faisant des actions comme le taux garanti à 1,35 ou 33 carats à Crans-Montana, ce sont deux exemples. La baisse de tarifs représente une perte pour les hôteliers valaisans, en tout cas. Et la suppression du taux de TVA, même limité, c'est une mesure qui contribue à limiter cette perte, hein. Et puis, on l'a toujours dit, on a besoin de deux types de mesures pour lutter contre le franc fort. Des mesures de type économique, qui sont immédiates, et des mesures de type plutôt structurel, qui porteront sur le long terme. Alors, la position de la Banque nationale pour défendre le franc 1,20 est une mesure de type économie immédiat, on le voit, garante de succès en tout cas. Et puis, la suppression momentanée de la TVA également. Maintenant, il faudra que d'autres mesures plutôt structurelles soient prises également.
Philippe Guénat, est-ce qu'il n'est pas trop tard finalement pour avoir pris cette mesure qui n'est pas encore prise d'ailleurs, hein ? Elle a juste été annoncée pour le moment.
Bah, écoutez, elle a été annoncée en Suisse. Tout se passe, on se hâte lentement, donc on espère qu'elle sera en vigueur avant décembre 2012. Mais moi, il y a une chose qui m'étonne dans cette mesure. C'est que nous, PME, soit que ce soit dans le Valais ou à Genève, nous achetons localement. Nous faisons travailler des gens dans le canton. Nous payons la plus grosse partie de notre argent.
Je suis obligé de vous interrompre, si vous permettez. On a une information routière urgente. Une seconde.
Ah. Infotrafic RSR.
Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'axe Gotthard-Chiasso. Quelle que soit votre direction, entre Faido et Biasca, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'axe Gotthard-Chiasso. Quelle que soit votre direction, entre Faido et Biasca, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Ah, désolé de vous avoir interrompu, Philippe Guénat.
Simplement, ce que je disais, c'est que les plus grands bénéficiaires d'une industrie, ce sont les cantons. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les cantons ne font absolument rien pour sauver le pouvoir de travail des gens, des entreprises. On attend sur la Confédération et on vient pleurer à la Confédération, alors que les cantons font rien. À Genève, par exemple, et c'est pas un scoop, le département social et le département de l'économie ont envoyé une lettre co-signée par les deux directeurs en disant, s'il vous plaît, messieurs, ne licenciez pas, gardez le personnel, faites tout. Oui, mais alors, si vous voulez pas qu'on licencie, si vous voulez qu'on garde la main d'œuvre, pourquoi est-ce que les cantons ne nous aident pas et pourquoi faut-il aller pleurer auprès de la Confédération?
Oui, Patrick Béraud, aller pleurer auprès de la Confédération. Vous êtes d'accord avec Philippe Guénat? Là, c'est à d'autres de vous soutenir, les cantons?
Oh oui, tout à fait, il a raison. On attend des cantons qui...
Mais vous voulez les deux, j'imagine, Patrick Béraud. La Confédération plus les cantons.
Les deux. Ouais. Mais on a obtenu, par exemple, l'État du Valais a annoncé le report de l'amortissement des crédits. Alors, c'est 100 millions que l'État du Valais a prêté aux hôteliers pour remettre leurs hôtels au goût du jour. Et sur ces 100 millions, ben, malheureusement, ça représente qu'une petite partie.
Mais Patrick Béraud, alors justement, est-ce que vous avez fait des gestes, vous, en cette période de fête, par exemple, pour baisser peut-être les nuitées, pour attirer plus de clients et pour éviter des pertes trop grosses?
Mais bien entendu, tous
mais
les autres...
Mais de vrais gestes, pas des gestes pour la gloire, hein?
Non, mais des véritables actions. Si vous prenez la station de Grairen, les hôtels, les remontées mécaniques se sont mis ensemble pour garantir un taux à 1,35. Eh bien, c'est 15% un peu moins, hein, mais c'est 13% de rabais supplémentaires qui sont accordés. Et vous avez la station de Crans-Montana avec son opération 33 carats, ça va dans le même sens.
Pourtant, Verbier est a priori apparemment bouté par les étrangers cette année.
Ben oui, parce que c'est un marché qui est très très volatile. On sait que la Grande-Bretagne est un marché qui suit beaucoup la bourse également. Et c'est un petit peu comme ça, hein. Mais il n'y a pas que les marchés britanniques, il n'y a pas que Verbier, il y a d'autres stations qui se portent très bien. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est très disparate. Vous avez des stations qui ont ciblé des familles suisses et puis d'autres stations comme Verbier qui ont plutôt international ou Zermatt qui est connue dans le monde entier et dont les clients viennent du monde entier effectivement.
Je remercie Patrick Béraud, directeur de l'Association des hôteliers du Valais. Philippe Guénat avec vous, propriétaire de plusieurs hôtels, le groupe Hôtel et Patrimoine. On vous souhaite une excellente soirée, messieurs.
Merci Et puis, oui, bonne soirée, bon Noël à tous.
Merci
bon
beaucoup.
Noël à tous. Merci. Merci. Allez, salut.
Et puis, on vient de l'apprendre, c'est une figure emblématique de la télévision suisse romande, de la défense des consommateurs également. Catherine Valli est décédée la veille de Noël. On vient de l'apprendre par un communiqué aujourd'hui avec nous. Jean-Jacques Lagrange, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous étiez son réalisateur. Elle a fondé À Bon Entendeur, on la connaît bien. C'était une sorte de légende de la télévision, Catherine Valli. Elle l'a fait toute seule, cette émission. C'est vraiment, elle l'a décidé, elle l'a lancé. C'était son concept.
Ah oui, c'était. Je suis assez choqué de cette nouvelle que vous m'apprenez. Mais en effet, elle a été véritablement l'instigatrice d'À Bon Entendeur après avoir collaboré un nombre très grande année comme assistante de Continent sans visa, de Temps présent et d'émissions du service d'information. Mais ça, c'était vraiment son enfant et elle y a donné toute son énergie et toute la force qu'elle avait de persuasion surtout pour convaincre les spectateurs de s'intéresser à ces problèmes.
Jean-Jacques Lagrange, on se souvient de cette émission, et puis ses interviews, souvent, ils passaient un mauvais moment, un mauvais quart d'heure, les industriels avec elle. Elle avait un style assez coupant, comme ça, elle les ménageait pas.
C'était un style plus que coupant, c'était extrêmement incisif, et à cette époque, c'était quelque chose qui était nouveau et qui était assez mal vu. Elle s'était inspirée un petit peu de ce qui se passait, ce qu'elle avait vu en Angleterre et aux États-Unis, où le journalisme à cette époque était déjà beaucoup plus agressif que chez nous.
Et derrière les caméras, on imagine une autre personne.
Pardon.
Derrière les caméras, derrière, après ces rôles un peu d'intervieweuse très sèche comme ça avec les industriels, c'était une autre personne.
Ah oui, 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 c'était une personne très drôle qui avait beaucoup d'humour, mais qui était, qui affirmait très fortement sa personnalité à l'intérieur de la TV, derrière les caméras comme devant d'ailleurs. Mais c'est ce qui faisait sa force, son charme et je pense le fait qu'elle a tenu cette émission contre vents et marées et en a fait véritablement une des émissions clés de la TSR.
Hein. Oui, À Bon Entendeur. Oui. Catherine Valli qui est décédée la veille de Noël. Je vous remercie beaucoup d'être venu lui rendre hommage, Jean-Jacques Lagrange.
Je vous en prie.
Au revoir, merci beaucoup. Et puis quelques secondes encore dans ce forum pour se voir. Sylvain Freyholz, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes ancien sauteur à ski, consultant de la radio-télévision suisse. La tournée des quatre tremplins, ça commence cette semaine. Simon Hamann, c'est un peu le seul titre qu'il a jamais gagné. Alors, on a envie de vous poser la question toute simple, c'est pour cette fois.
Ouais, en tout cas, il y aura une grosse pression et lui va essayer de tout faire pour essayer de la gagner. C'est vrai que c'est le seul titre qu'il n'a pas encore gagné jusqu'à maintenant. Et ben, tout est possible, hein. C'est vraiment une tournée des quatre tremplins, c'est quatre tremplins différents et beaucoup de choses sont possibles.
Il dit s'être concentré uniquement là sur cette tournée, vous pensez que là, cette fois c'est la bonne?
Ouais, alors j'aurais un peu le même discours que d'autres personnes connues sur le circuit. Depuis le début de la saison, c'est vrai qu'il a pas montré un niveau exceptionnel. Il est régulièrement placé dans les 10 premiers en Coupe du Monde, mais il n'arrive pas à passer le cadre du podium ou gagner une Coupe du Monde. Peut-être qu'il aura la capacité d'augmenter encore son niveau pour ses prochains concours. Il nous l'a fait hein, souvent lors des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde. Avec lui, on peut toujours espérer. Il a toujours un petit atout hein, qui va sortir pour la tournée des quatre tremplins et ça peut suffire.
Bon, mais il se fait vieux un peu, Simon Hamann, là. Est-ce qu'on voit la relève qui arrive?
Alors, on distingue la relève déjà depuis plusieurs années, mais c'est vrai que le gouffre entre Simon et les jeunes sauteurs suisse-allemands et suisse-romands est encore très très grand. Là, ma foi, ben, on peut juste espérer que Simon reste encore suffisamment longtemps pour qu'une vraie équipe jeune puisse se construire derrière. Mais ça, c'est vrai que ça avait déjà été relevé il y a une dizaine d'années. La situation n'a malheureusement pas beaucoup évolué.
Je vous remercie beaucoup, Sylvain Freyholz, d'être venu évoquer cette tournée des quatre tremplins qui commence le 29 décembre. C'est cette semaine encore, c'est jeudi. Merci beaucoup, Sylvain Freyholz. Bonne soirée.
Au revoir, merci.
Et puis 18h58, c'est la météo avec Edmé Fleury.
Un temps agréable pour le début des vacances d'hiver s'installe sur nos régions grâce à un puissant anticyclone centré sur l'Europe. Demain matin, après une nuit claire, les températures seront fraîches, de moins 1 à moins 5 degrés en plaine, jusqu'à 3 à 5 degrés dans l'après-midi, net doux en montagne avec 2 degrés encore à 2000 mètres. En matinée, quelques bancs de stratus pourront se former sur le plateau, ils resteront très locaux. Après dissipation de cette grisaille et partout ailleurs, soleil radieux. Le même genre de programme est prévu mardi, soleil généreux, très doux d'eau en montagne, une incertitude, la hauteur et l'importance du stratus sur le plateau. Mercredi, dernier jour de cette période de temps sec, soleil omniprésent, malgré quelques grisailles possibles sur le plateau en matinée. Jeudi, une zone de perturbation abordera la Suisse avec le retour des pluies et de la neige des 800 mètres.
La météo avec Generali,
la fondation Pierre Giannada et son exposition Ernest Bieler.
Infotrafic RSR.
Le trafic s'écoule sans difficulté sur les principaux axes du réseau routier romand. Pour rappel, et si vous sortez de table, vous pouvez faire appel à la Fondation Nez Rouge pendant toute la période des fêtes en composant le numéro gratuit 0800 802 208. 0800 802 208, c'est la Fondation Nez Rouge. Et puis sur le site internet trafic.rsr.ch, vous trouverez d'autres informations concernant le trafic routier. On vous dit santé d'ailleurs, si vous devez faire appel à Nez Rouge. On vous souhaite une excellente soirée sur la première, il va être 19h. À la technique, c'était Sandro Lichy et Hervé Mermillot, et à l'édition, Maureen Mercier. Excellente soirée, 19h.